à partir de ces, les passages que nous venons de lire, vous voyez aussi que dans les fouillés, il y a un peu certains passages des Thessaloniciens. Donc nous sommes obligés, pour avoir une bonne vision de l'ensemble, de faire référence. C'est pour ça qu'il a imprimé quelques passages et en plus un code QR qui amène le texte complet. On fera quelques références. On va prier et on va commencer. Notre Dieu, notre Père, merci Seigneur pour la richesse en son don de ta parole. Nous nous approchons d'elle avec reconnaissance, avec respect, avec humilité, afin de comprendre, Seigneur, et contempler la gloire de Christ avec toute sa splendeur. Que ton esprit nous aide. Amen. Les diamants sont des minéraux très précieux. Ce n'est pas mon domaine d'expertise, mais je sais une chose. Apparemment, c'est l'élément principal, c'est que les carbones. Ça peut être les étudiants secondaires. Je regarde mon fils Dan ici, il sait plus que moi. Il partage avec les graphites, qui est commun dans les crayons qu'on utilise. Il partage l'élément avec les graphites. C'est des carbones aussi. Les deux, les graphites et les diamants sont les deux composés par cet élément. La seule différence entre les deux, c'est la structure, apparemment. Le graphite est commun, mais le diamant est rare et précieux. En fonction de sa taille, sa valeur peut être incalculable. Ils ont des propriétés extraordinaires, les diamants. Ils sont très appréciés par leur élégance, leur durabilité, leur exclusivité. Dans les domaines de la construction, il est utilisé parce qu'il est vraiment résistant et il peut écraser toutes sortes de matériels. Il peut facilement écraser une montagne et perforer sans fatigue. Quelqu'un dit qu'il peut même facilement perforer ton compte d'épargne tout d'un coup. Et évidemment, je ne parle pas par expérience. Mais la partie la plus intéressante, c'est sa formation. Les diamants se forment sous pression extrême. En général, sous la Terre, où la pression et la température sont vraiment très élevées. Et peut-être vous ne le savez pas, moi non plus, mais lors de la chute des météorites, parfois il y a aussi des formations des diamants par la haute pression et la haute température causée pour l'instant de la chute de la météorite. Dans le premier verset des Actes, chapitre 17, nous sommes témoins d'une situation pareille. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus, arrive avec force à Thessalonique. C'était une grande ville, c'était une ville stratégique, au centre, au carrefour de beaucoup de commerces, où beaucoup de gens de différentes cultures passaient. C'était vraiment une ville importante. L'Évangile atterrit avec puissance. Mais il doit faire face à une opposition intense, qui essaie de le détruire. L'opposition que Paul et tous les croyants souffrent est très, très intense. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une église modèle, des diamants, apparaissent là-bas. L'église de Thessalonique. Après avoir laissé Philippe, qu'on avait vu la semaine passée, il arrive à Thessalonique. Et selon sa coutume, Paul visite la synagogue. Il n'a pas pu faire ça la semaine passée dans Actes 16, mais ici à Thessalonique, il y avait une communauté de Juifs. La parole dit qu'il était là 3 semaines. On peut risquer de dire que c'était seulement 3 semaines la période dont Paul était là, mais on sait par l'épître aux Philippiens qu'ils ont même reçu jusqu'à 2 fois de l'aide de Philippe lorsque Paul et Silas étaient à Thessalonique. Donc, un peu plus de 3 semaines, il semble. Mais en tout cas, un délai assez court. Ce passage de Paul et Silas à Thessalonique avait un fort impact, à la fois positif et à la fois négatif. D'un côté, les croyants deviennent une communauté très, très forte et fidèle grâce à l'œuvre de l'Esprit. Et de l'autre, les oppositions essaient de l'écraser avec toute sa force. Et nous allons voir la semaine prochaine que même ils persécutent Paul et Silas à Bérée, la suivante ville. Mais les passages, quoi qu'il en soit, les passages de l'Évangile ne les perçoivent pas indifférentes. Et en utilisant la même expression qu'on vient de lire dans le verset 6, le titre de ce message, c'est l'Évangile qui bouleverse le monde entier. L'Évangile qui bouleverse le monde entier. Et nous allons voir, à partir des passages, la structure qui apparaît naturellement, comme les Écritures révèlent le Christ. Deuxièmement, comme la parole agit dans ceux qui croient. Et finalement, comment les croyants persévèrent malgré l'opposition. En premier lieu, on voit, et c'était un verset assez court, que Paul ouvre l'Évangile. Il dit, littéralement, on vient de lire, qu'il expliquait et exposait que le Christ devrait souffrir et ressusciter entre les morts. Et disait Paul, et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Littéralement, l'expression, les mots dans l'original font penser à ouvrir complètement les Écritures. Pas seulement un passage, un ou deux, mais ouvrir complètement et présenter toutes les évidences, mettre toute la carte sur la table. Paul présentait toutes les prophéties et tout l'accomplissement des prophéties pour montrer que Jésus était l'unique à pouvoir accomplir tout ce qui était écrit de lui. Luc, qui était l'auteur d'Actes, ne va pas répéter tout ce qu'il avait écrit déjà, mais si vous voulez à la maison lire le chapitre 13, c'est un bon chapitre où il y a un bon discours avec toutes les références, beaucoup de références dans l'Ancien Testament. Et Luc ici ne prend pas le temps et l'espace pour répéter, mais il fait clairement référence. Et on pense que Paul, on a les indices pour penser que Paul suive exactement la même structure. Selon les Écritures, le Messie était quelqu'un d'unique dans sa catégorie. Il n'était pas un prophète, n'était pas comme des autres hommes et personnages qui sont dans les Écritures. Il était quelqu'un unique dans ses catégories. On sait que c'était un roi. Je ne vais pas donner toutes les références, mais après, vous pouvez me rencontrer. Mais c'était un roi. On sait que c'était un prêtre aussi. On sait que c'était quelqu'un qui était Dieu. Il devrait souffrir, ressusciter, régner et exercer un sacerdoce à perpétuité. C'était Jésus même qui avait dit ça. Qu'on demande à ses disciples, qu'est-ce que vous dites qui je suis? Et Pierre dit, tu es le Messie, le Fils de Dieu envoyé. Et Jésus déclare clairement qu'il allait souffrir et qu'il allait ressusciter. Et quand il ressuscite, dans les chemins d'Emmaüs, dans Luc 24, Jésus même prend le temps pour ouvrir de la même façon que fait Paul, et parcourir depuis Moïse et tous les écrits et toute la prophétie pour expliquer tout ce qui était écrit à propos de lui. Ici, Paul présente le Christ des Écritures. Il n'a pas adapté les messages pour éviter d'être offensif aux sensibilités, même si peut-être son style n'était pas agressif du tout, mais les messages restent fidèles. Il n'a pas adapté le contenu de son message. Ça, on le sait, on n'a pas le temps de tout lire, mais Paul le lit clairement dans l'Épître aux Thessaloniciens. Paul dit qu'il n'a pas non plus utilisé un langage flatteur, un langage pour persuader d'une façon artificielle. Il ne faut pas vraiment changer ou de chercher des techniques pour transmettre les messages. Le message est clair et il vient de les Écritures. Il a seulement voulu présenter Paul, le Christ et les saluts de Dieu grâce à lui. Qu'est-ce qu'on apprend directement de ces petits versets, mais de tous les contenus qu'il y a ici? On apprend qu'on ne peut pas présenter Jésus en dehors des Écritures. Ce sont les Écritures qui dévoilent son identité, qui dévoile sa mission, qui dévoile sa valeur. C'est grâce aux Écritures qu'on peut identifier et connaître ce Christ, le Messie envoyé de Dieu pour nous. Sans les Écritures et sans l'accent sur ces résurrections, il restait seulement une caricature ridicule et fausse. Comme peut-être des gens peuvent penser, c'était un bon homme, un bon exemple d'amour, un maître exceptionnel ou un bon leader, mais dommage qu'il est allé trop loin et s'est fait tuer. Mais son amour restera dans notre corps pour toujours, des caricatures qui ne reflètent pas la mission et l'identité de Christ. Sans les Écritures, on ne peut pas comprendre ni la croix, ni la résurrection, parce que ce n'est pas le Christ des Écritures. La mort de Christ, comme peut-être quelqu'un le pense ailleurs, n'est pas seulement une démonstration suprême de la mort de Dieu, un mot d'exemple pour nous à suivre. Non. La mort de Christ n'était pas un tragique final pour quelqu'un qui voulait changer le monde. Ce sont des visions fausses, mais pas attachées à l'Écriture. La mort de Christ, par contre, était absolument nécessaire pour rendre possible le pardon et la justification de Dieu. Absolument nécessaire. Jésus est l'envoyé promis par Dieu pour pardonner et justifier, un terme qui est très chargé de sens légal, pour pardonner et justifier tous ceux qui croient en lui. Et par la foi, nous sommes unis à ce Christ promis qui nous délivre du jugement juste de Dieu. J'ai fait référence à Actes 13. Il y a un moment où Paul dit et explique aux Juifs, toute personne qui croit est rendue juste par Dieu, pas par la loi de Moïse. Dieu créa le monde et la Bible dit qu'il mit l'ordre dans le chaos. Tout était bon après la création, extrêmement bon. Mais les péchés, la désobéissance bouleversent l'ordre naturel, bouleversent le design originel. Au lieu d'avoir Dieu souverain, humanité et création, l'être humain rejette Dieu et bouleverse l'ordre originel. Et mit la création et adore la création au lui-même et laisse Dieu à la fin. Cette désobéissance mérite les jugements justes de Dieu. Mais la résurrection de Christ, qui d'ici à quelques semaines, on va célébrer à Pâques, la résurrection de Christ représente les moyens de Dieu que Dieu a envoyés pour rétablir cet ordre originel et mettre Dieu à sa place. Grâce à lui, nous sommes pardonnés et déclarés justes devant lui, afin de pouvoir être à nouveau en harmonie avec notre Créateur. Chaque fois, alors, que nous présentons cet évangile, nous devons être semblables à Paul, avec une intention honnête, sans manipulation, sans technique, sans parole flatteur, pour présenter fidèlement les évidences et pointer vers le Christ, pour que les gens connaissent le Christ biblique et puissent l'accepter. Qu'est-ce qui signifie croire en Christ? On le répète souvent et ce sont des mots que nous sommes habitués à entendre. Mais qu'est-ce qui veut dire croire en lui? Signifie croire qu'il est le moyen que Dieu a envoyé pour nous sauver. Avoir foi en lui signifie vouloir être unis à lui dans sa mort et sa résurrection. Vouloir être unis dans sa mort afin que notre culpabilité soit transférée à lui et sa condamnation soit déjà valable pour nous dans le sens qu'il prend notre place. Unis à sa résurrection signifie vouloir être unis dans cette justification. Justification, c'est seulement réussite au jugement de Dieu. Il n'y a aucune culpabilité. Et que cette justification soit transférée à nous par cette union, par la foi en lui. Accepter l'Évangile et c'est vouloir saisir cette opportunité que Dieu donne, cette possibilité exceptionnelle pour être en harmonie avec lui. Le Christ des Écritures. Mais accepter ce Christ nous amène au deuxième point. Et on voit ça dans les passages. La parole agit en ceux qui croient, en ceux qui acceptent ces messages. La deuxième chose qui attire notre attention, c'est que l'Évangile est reçu. En fait, ce n'est pas une surprise que l'Évangile soit reçu. Car depuis le début des actes, on voit qu'on sait que le Seigneur ajoutait à l'Église chaque jour ce qui devait être sauvé. Mais Luc met l'accent sur les gens qui croient. Verset 4. Quelques-uns d'entre les Juifs furent persuadés, convaincus, et se joignirent à Paul et à Silas. On sait qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu, et plusieurs femmes parmi les plus notables. Qu'est-ce qui montre ce passage et qui est en liaison avec la semaine passée? L'Évangile est pour toute l'humanité, pour toute culture, pour toute classe sociale. Et Luc mentionne intentionnellement et précisément qu'il y avait des femmes parmi les plus notables. C'est une évidence que l'Évangile n'est pas seulement pour les faibles, ni seulement pour les vulnérables, ni seulement pour les pauvres, mais pour tous. Grâce à l'épître des Thessaloniciens, on peut constater que ce qui s'est passé à Thessalonique, c'était une vraie transformation. Une vraie transformation du corps par l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est vivante et agit en ceux qui croient. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, Paul rappelle et dit: vous l'avez accueilli, non comme une parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Quand nous acceptons Christ par la foi, cette parole agit. Ce n'est pas seulement un message, un contenu informatif, ce n'est pas seulement une décision logique. La parole agit en nous, car c'est l'Esprit qui vient demeurer en nous. On voit ça dans les témoignages de cette église à Thessalonique. C'est l'Esprit Saint qui donne la certitude. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 5, que vous avez dans les feuillets. C'est l'Esprit Saint qui donne cette certitude. C'est l'Esprit Saint qui donne ses joies, la joie. Et cette foi qui s'est fait connaître en tout lieu. Vous croyez que ces réactions, des certitudes, des joies, des paix, sont logiques dans ces contextes de persécution? Je ne trouve pas. Plutôt, les réactions qui seront attendues seraient de la peur, de l'angoisse et de l'insécurité. Et on ne voit pas ça dans ces passages. Toute la région était au courant de la transformation radicale de ces croyants. Mais ce n'était pas leur propre effort qui agissait cette transformation, sinon l'action puissante de l'Esprit. En fait, tous ces livres que nous allons parcourir, vraiment, plutôt que les actes des apôtres, c'est les actes de l'Esprit Saint par les apôtres. Et c'est Paul qui écrit dans le chapitre 1, verset 9 de 1 Thessaloniciens, à propos de l'Église. On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu après de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu et vous détournant des idoles pour servir les dieux vivants et vrais et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Quel magnifique résumé de l'action de l'Esprit dans nos vies. Quel magnifique résumé, ce verset 9, de ce qu'est-ce que ça veut dire accepter les messages, détourner des idoles pour servir à Dieu et pour attendre de Dieu son Fils qu'il a ressuscité et qui nous délivre de la colère à venir. Magnifique résumé. Par la foi en Christ, l'Esprit nous transforme et nous bouleverse notre corps. Et cette action de l'Esprit est semblable, si vous me permettez, à la création initiale où Dieu met ordre dans le chaos. Et c'est l'Esprit qui commence à mettre ordre dans le chaos de notre vie. L'esprit bouleverse les conséquences des péchés en nous et il remet petit à petit tout en ordre à nouveau, en commençant pour notre corps. L'esprit nous ouvre les yeux pour nous détourner des idoles extérieures, des idoles abstraites, de nous-mêmes en tant qu'idoles, peu importe, et regarder la gloire de Christ dans toute sa splendeur. Nous voyons ici cette transformation parmi quelques juifs, parmi beaucoup d'hommes grecs et même des femmes importantes avec influence dans la société. William Tyndale, William Tyndale, Steve D. Weir, est né dans les années 1500. J'ai appris qu'il était le premier traducteur, pas le premier traducteur pour traduire la Bible en anglais, mais le premier traducteur qui a traduit la Bible en anglais depuis les origines, depuis l'hébreu et le grec. Il est mort pas loin d'ici, à Vilvoord. Comme beaucoup d'autres personnes, il croyait que la foi chrétienne était un contrat. Une liste d'obligations à faire avec un long annexe. Une liste d'obligations à faire avec un long annexe des choses à éviter, des plaisirs à éviter surtout. Lors d'une lecture mesurée des Écritures, forcément pour pouvoir faire la traduction, il a pris conscience qu'il avait tort. Il avait mal compris, il avait été mal enseigné. Il a découvert la gloire de Christ et l'action de l'Esprit quand on accepte l'Évangile. Il écrivait, et c'est une traduction livre pour prendre l'essentiel, mais il écrivait, « Je comprends que le péché n'est pas à l'extérieur, sinon que le péché a bouleversé mon être, mon cœur, mes désirs, mes pensées, mon appétit pour les choses. Tout cela m'amène à pécher contre Dieu. Mon seul espoir est que l'Esprit de Dieu crée en moi un désir pour Dieu. » Une très belle façon d'exprimer ce que ça veut dire, cette transformation. Mon seul espoir, c'est que l'Esprit de Dieu crée en moi un désir pour Dieu. Je me rends compte que le centre de la foi chrétienne ne consiste pas plutôt à accéder au paradis, mais à participer de la divinité et avoir une relation intime avec Dieu. Lui disait aussi, là où il y a l'Esprit Saint, il est toujours été. Là où il y a l'Esprit Saint, il est toujours été. Il y a toujours des bons fruits. Il y a toujours de la chaleur. Parce que là où il y a l'Esprit Saint, il y a des œuvres qui plaisent Dieu. L'action principale de l'Esprit, loin de faire des choses spectaculaires, mais l'action principale de l'Esprit, c'est nous augmenter notre amour pour Christ et pour la Père. Ça, on le voit ici, dans ces passages. L'Esprit nous aide à changer de perspective et pour ne pas être obsédé par nous-mêmes, mais plus obsédé par Christ dans le bon sens. L'Esprit nous aide à changer ces perspectives. Quand nous sommes obsédés par nous-mêmes, on tombe sur l'angoisse, on tombe sur l'insécurité. Nous sommes vulnérables, nous sommes faibles. Mais l'Esprit nous aide à changer la perspective, être obsédés dans le bon sens par Christ. Par la foi en Christ, l'Esprit rentre dans leur vie. Et c'est ça qui est l'agent qui agit cette transformation. Et rentrons dans nos vies pour bouleverser les effets du péché et pour rétablir l'ordre original, en commençant par notre corps. Ce processus qui inverse les effets du péché, on peut l'appeler sanctification, qui est un concept qui apparaît dans les épîtres des Thessaloniciens et qui est sûrement mal compris. Il n'a rien à voir avec la perfection d'être dans une statue. La sanctification n'est pas ça. La sanctification, c'est la harmonisation progressif de nos désirs et pensées à la volonté de Dieu. Cet approchement progressif à Dieu et cet éloignement progressif de tout ce qui est le monde avec toutes les connotations négatives. C'est pour ça que Paul dit dans Thessaloniciens, le premier chapitre, verset 5, « Notre évangile n'est pas venu jusqu'à vous en parole seulement, mais aussi avec la puissance, avec l'Esprit Saint et une pleine certitude. » Cette action de l'Esprit Saint nous amène à comprendre comment ils ont persévéré. Troisièmement, dans notre serment aujourd'hui, les croyants persévèrent malgré l'opposition. Et on ne peut pas bien tout comprendre par rapport à l'intensité de toute cette opposition seulement en regardant Acte 17. Il faut jeter un coup d'œil vite dans les épîtres et là nous allons comprendre vraiment la magnitude de cette opposition et cette persécution. Chapitre 1 de Thessaloniciens, verset 6. En recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations. Chapitre 2, verset 2. Nous avons pris l'assurance de notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Donc c'est chapitre 2, verset 12. Paul dit que nous vous avons exhorté et consolé suite de la persécution et de la souffrance. Les Juifs ont organisé une grande persécution contre les nouveaux croyants. Et Luc, qui est l'auteur des Actes, témoigne clairement de leur motivation. C'était, comme on a lu, la jalousie. Quel contraste aussi nous allons voir la semaine prochaine avec les Juifs avérés qui sont plus avec la tête plus froide et qui examinent. On va parcourir ça la semaine prochaine. Mais les Juifs ici, non. Les Juifs ici font épreuve d'une jalousie extrême. Et c'est semblable à ce qui était arrivé aussi à Acte 13 quand Paul était à Antiochie. La racine de cette jalousie, la racine de toute jalousie est l'orgueil. Et l'orgueil ne peut pas agir selon la volonté de Dieu. Les Juifs à Thessalonique ne cherchaient pas la vérité, sino qu'ils voulaient protéger à tout prix leur statut. Sa réaction est colérique, viscérale et loin d'être rationnelle. Et leur modus operandi est exactement le même qu'avant dans Acte 13, où ils ont agité la population contre Paul et Silas, tout en utilisant des hommes mauvais pour ses objectifs. La même chose qui est arrivée quand Jésus était crucifié. Ils ont agité la population pour ses intérêts. Les Juifs ne pouvaient pas accepter, une partie des Juifs, la majorité, ne pouvaient pas accepter les Messie promis crucifiés. C'était une insulte. La priorité aussi des Romains était d'assurer la Pax Romana, la stabilité de l'Empire. Les chrétiens parlaient d'un roi Jésus. Et ça provoquait de l'incertitude politique. On ne peut pas permettre ça. Les Grecs thessaloniciens, de leur côté, profitaient d'une certaine indépendance. Thessalonique n'était pas complètement gérée par l'Empire romain. Il y avait des organes de gouverne plus ou moins démocratiques, avec un système judiciaire parallèle, qu'on voit dans les magistrats. Ils profitaient d'une certaine indépendance avec l'État romain. Ils ne voulaient pas perturber ces relations et la stabilité qu'il avait. Et aussi l'évangile allait contre sa culture polythéiste de plusieurs dieux. Il parlait seulement d'un dieu. Donc pour cette raison, les Juifs ont essayé d'amener Paul et Silas aux autorités. Et plus avant, comme on vient de lire dans le texte, la nouvelle allait plus vite que sa jambe. Et Paul et Silas ont pu échapper. On voit parce qu'ils ont à la maison des Jason et ils ne les trouvent pas. Et pour coactionner et pour essayer de détruire cette initiative, il prend Jason et les autres et les amène à leurs autorités. Et il y a deux accusations principales. La première, ces hommes ici, qui bouleversent le monde entier, sont aussi venus ici. Ils bouleversent le monde entier. On veut la paix, mais ces hommes bouleversent le monde. Et en plus, il agit contre les Césars. Et ils disent qu'il y a notre roi. Ça, c'est une confrontation directe avec notre paix. Et il ne manque pas d'ironie dans cette accusation. Parce qu'ils ont partiellement vrai et partiellement faux en même temps. Les chrétiens étaient accusés de bouleverser le monde. Et dans un sens, oui, c'est vrai, mais pas dans la façon dont ils pensent. L'Évangile fait vaciller les fondations connues jusqu'à présent, mais d'une façon pacifique, toujours. Parce que la résurrection de Christ change tout. Ce qui, pour être honnête et pour être complète, ce qui avait vraiment bouleversé le monde était le diable, était le péché original. Mais Jésus est venu pour restaurer l'ordre original. 1 Jean, Jean écrit sa première épître et dit « C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. » Donc, ironiquement, cette accusation est, vraiment, est partiellement vraie, mais pas dans le sens légal. Donc, c'est feu, c'est en dehors des contextes. La deuxième est liée avec la première. Il proclame qu'il y a notre roi. Oui, les chrétiens, nous proclamons que Jésus est roi, mais pas dans le sens politique, ni comme une excuse pour démarrer une révolution sociale. Cette accusation aussi est particulièrement ironique, car les Juifs cherchaient à être indépendants face à Rome. Rome était l'ennemi, mais maintenant, conduit par l'orgueil et la jalousie, joue le rôle de protecteur de l'État. La pression créée par les Juifs est si forte que même le conseil judiciaire s'est laissé influencer. Et il prend une caution pour, avant de relâcher Jason et les autres, comme on vient de lire. Et comme conséquence, Paul et Silas doivent abandonner la ville pour éviter de causer plus de conséquences aux chrétiens. Paul et Silas doivent partir, mais leur cœur reste attaché. On voit ça dans nos épîtres. Ça m'a touché de voir qu'on ne peut pas seulement partager l'Évangile et partir. Quand on partage l'Évangile, on partage aussi notre cœur. Nous sommes attachés aux personnes. L'intérêt principal de Paul n'était pas à dire tchèque, Thessalonique tchèque, Béret tchèque, mais il avait un souci vraiment honnête et sincère pour les personnes. Il voulait que l'Esprit Saint transforme la vie de toutes ces personnes. Parmi toute cette opposition, des accusations, il y a un grand mais. Mais les croyants de Thessalonique persévèrent. Les croyants persévèrent. Pas seulement persévèrent et résistent, mais on voit par les épîtres que leur foi et leur amour grandissent malgré l'opposition. Et ils deviennent diamants, peut-être pas parfaits, mais ils deviennent des diamants sur la pression intense de cette persécution. Ils sont un modèle pour toute la région. Leur amour, leur foi et leur amour abondent et abondent. Dans la deuxième épître aux Thessaloniciens de Paul, il dit vraiment, votre foi abonde, vous êtes bien dans le bon chemin. Il n'y a pas rien à corriger. Paul dit, abondez, abondez encore plus, jusqu'à la venue de Jésus. Et c'est un exemple parfait pour nous de ce que Jean écrit par rapport à la foi qui triomphe le monde. Littéralement dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Si vous vous demandez qu'est-ce que ça veut dire, regardez aux Thessaloniciens, nos frères et sœurs de là-bas, et comment ils ont agi, et comment ils ont persévéré. Ils ont vaincu, ils ont supporté avec la joie et la paix de l'esprit. Comment ils ont arrivé à persévérer? Comment? La réponse courte, ce n'est pas eux qui persévèrent par leur effort, mais l'Esprit Saint qui leur insuffle la force et la détermination pour tenir debout. Ça, c'est la réponse vraie et courte. Mais néanmoins, on peut explorer un peu plus les différents aspects qui permettent leur persévérance. Il y en a trois qu'on voit sur les passages et sur les épîtres des Thessaloniciens. D'abord, il avait été déjà averti par Paul. Ses attentes étaient réalistes. Et Paul avait écrit dans le chapitre 3, verset des Thessaloniciens. Lorsque nous étions près de vous, nous vous disions d'avance que nous aurions des tribulations, ce qui était arrivé, et vous le savez. Et aussi, dans la deuxième épître, il dit, il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée. Et je vous disais cela. Il résiste parce que ses attentes étaient déjà alignées avec la réalité. C'est quelque chose qui pourrait probablement arriver, et ce qui était vraiment arrivé. Nous devons avoir des attentes réalistes. L'opposition et la persécution sont une réalité. Nous sommes déjà avertis et nous sommes témoins. Donc ne soyons pas surpris si la réaction de l'Évangile, parfois, crée de l'opposition, même intense. Ils résistent parce qu'ils étaient déjà avertis, ces attentes étaient réalistes. Deuxièmement, ils regardaient les passés et Christ ressuscité. Et ça, c'était la source de la joie, de la paix. Cette source de joie et la paix qu'il avait viennent de savoir que Christ avait déjà tout fait. Tout est accompli, on lit dans la Bible, et même on chante ici. Tout est accompli. Il ne reste rien à faire concernant notre salut. Et on voit la résurrection de Christ et on sait que notre salut est certain, irrévocable et éternel. Nous pouvons dès maintenant nous adresser au Père car Jésus l'a fait possible. Nous sommes déjà une nouvelle créature revêtue de sa justice, pas revêtue de perfection encore, mais revêtue de sa justice, qui est un terme légal. Nous sommes déclarés sans culpabilité. Il n'y a donc aucune accusation contre nous, plus, qui tient. Il n'y a donc aucune condamnation. C'est tout fait. Ça, c'est la source de la joie et la paix. Il regardait le Christ ressuscité. Mais troisièmement, il persévère parce qu'il regarde vers le futur. Christ viendra. Et j'ai été étonné, si je veux faire une lecture vite, ça prend quelques minutes, des deux épîtres thessaloniciens, la quantité de références à la venue de Christ, c'est vraiment étonnant. Tout le temps, Paul fait référence pour exhorter, pour consoler, pour encourager. Le fait que Jésus viendra est une source aussi de consolation et d'encouragement. Et Paul écrit, pour mentionner un texte, le chapitre 4, verset 13, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, ceux qui sont décédés. » Afin que vous ne vous attristez comme les autres qui n'ont pas d'espoir. Vous n'êtes pas comme eux. Prenons courage de cette espérance. Jésus viendra. Il leur exhorte à être encouragés par sa venue. Tout juste à la fin, au milieu du chapitre 5, il dit, « Car Dieu ne vous a pas destinés à la colère. » mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Ainsi donc, exhortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un à l'autre comme vous le faites déjà. Prenez courage pour ces réalités. Donc, il persévère grâce à l'action de l'Esprit, mais il persévère parce que ses attentes étaient réalistes, parce qu'il regardait la résurrection de Jésus et il regardait le futur, sa venue. Et pour conclure, la haute pression crée des diamants, comme ici, par la grâce de Dieu. Persévérer aussi parmi l'opposition est une évidence qu'on a vraiment connu Dieu et que l'Esprit de Dieu est avec nous. Et comme disait William Tyndale, là où il y a l'Esprit, c'est toujours été. Prenons courage de l'exemple de nos frères et sœurs à Thessalonique. Là où nous présentons l'Évangile, présentons les crises des Écritures, sans changer les messages. Soyons semblables à lui dans le sens que soyons perméables à l'œuvre de l'Esprit Saint jusqu'au dernier jour. Si tu es loin de ces choses que Jésus est en train de partager avec toi, réfléchis, lis les Écritures, connais, accepte Christ. Saisis cette opportunité d'échapper au jugement et saisis cette opportunité d'être en harmonie avec ton Créateur, avec Dieu. Et prenons courage face à l'opposition. Nous allons persévérer par sa fidélité. Chapitre 5, verset 23, et avec ça je vais conclure. Dit Paul, quel est Dieu de paix ? Vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps, soit conservé sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous a appelé et fidèle. Et c'est lui qui le fera. Amen.
Merci Jonathan. Je vais inviter Samuel à s'approcher. On a entendu beaucoup d'implications pour nous, de veiller au retour, de lire la parole, de persévérer dans les persécutions. Donc prie pour nous, s'il te plaît, Samuel, pour toutes ces choses.
Prions. Seigneur, quelle grâce, quelle bénédiction tu nous donnes de disposer de ta parole, de l'Écriture, de la Bible. Parce que chaque fois que nous plongeons nos regards dans l'Écriture, nous découvrons beaucoup plus ton amour et l'harmonie de la Bible. Nous l'avons encore entendu aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, nous te remercions parce que par ton esprit, tu transformes. Tu as transformé des Thessaloniciens, tu as transformé Jason. Et aujourd'hui, Seigneur, tu peux encore transformer des cœurs. Oui, toi tu es le même, tu ne changes pas, comme tu as changé les cœurs des Thessaloniciens, tu peux changer les cœurs de ceux qui aujourd'hui ne t'appartiennent pas encore. Tu peux les transformer en diamants, Seigneur, qui brillent pour toi de toutes leurs facettes. Seigneur, ce n'est pas par nos mérites, mais par ton Saint-Esprit. Et la puissance, Seigneur, qui se dégage de cette transformation, demeure éternellement. Nous te remercions pour cela, Seigneur. Que cela puisse être vrai encore ce matin. Seigneur, mais tu nous as aussi enseigné ce matin que les difficultés font partie du lot des chrétiens. Il y a toujours le diable qui est là pour nous houspiller, pour nous faire chuter peut-être, mais toi tu nous aides à nous relever. Père, nous te demandons de pouvoir persévérer comme ces Thessaloniciens. Que nous puissions aussi avoir une vision réaliste de nous-mêmes et du monde et être conscients que ça ne peut pas s'améliorer tant que tu ne reviendras pas, comme on l'a chanté tout à l'heure. Oui, Seigneur, nous aspirons à ton retour pour mettre de l'ordre, de l'harmonie comme au début. Seigneur, nous te prions pour que tu mettes de l'ordre dans ce monde, mais surtout dans la vie de chacun de nous. Tu es un Dieu d'ordre, d'harmonie, c'est ce que nous voulons faire aussi, Seigneur, par la sanctification. Aide-nous à persévérer, Seigneur, pour t'honorer dans la sanctification. Seigneur, nous voulons aussi te prier pour cette semaine qui s'ouvre devant nous, et nous te demandons, Père, que tu bénisses l'effort d'évangélisation qu'il y aura ici à Molenbeek, à Herstal, à Lagaren-Colombes et à Lausanne, que toute cette semaine d'efforts d'évangélisation puisse transformer des vies là aussi, comme à Thessalonique, faire de vulgaires carbone des diamants pour ta gloire. Seigneur, nous voulons aussi te prier pour nos frères au Myanmar, qui peut-être, en plus de la persécution qu'ils vivent dans cette dictature, sont peut-être touchés aussi par ce tremblement de terre. Nous te demandons que tu leur donnes une double mesure de ton Saint-Esprit en ces jours difficiles. Et nous te prions, Seigneur, pour que la persécution cesse dans ce pays, que cette jeune militaire puisse comprendre qu'ils ne feront rien de bon en persécutant des chrétiens, parce qu'ils t'appartiennent et tu es au-dessus de tout cela. Seigneur, veuille recevoir notre hommage et nos remerciements pour ces moments que tu nous as donnés. Au nom de Jésus-Christ. Amen.